Voici l'interview de Matin Première. Bertrand, vous recevez aujourd'hui Pierre Defraigne, directeur exécutif du centre Madariaga Collège d'Europe. Messieurs, c'est à vous.
Oui, bonjour Pierre Defraigne.
Bonjour.
On va évoquer avec vous les débuts de l'ère Trump, du président élu, et la fin du mandat de Barack Obama. Alors, les conséquences de son élection sur notamment le commerce mondial, et forcément, puisque les deux sont liés, sur la géopolitique mondiale, et notamment de la Chine, puisque Donald Trump a nommément pointé plusieurs fois durant sa campagne son adversaire chinois. Il l'accuse de manipuler sa monnaie. Il a annoncé des droits de douane très élevés pour éviter le déferlement de produits chinois aux États-Unis. Et je le cite notamment aussi, la Chine, selon lui, a inventé le concept de réchauffement climatique pour rendre les produits américains non compétitifs. Voilà le climat. Alors, Pierre Defraigne, est-ce que tout d'un coup, tout ce qu'on a connu maintenant depuis 8 ans avec Obama, et peut-être plus au-delà d'Obama avec les États-Unis, est en train de voler en éclats?
Et je crains qu'il faille s'attendre à des difficultés sérieuses. D'abord en raison de l'incertitude de Trump lui-même sur sa politique, qui sera probablement en partie déterminée par le choix des hommes qu'il va rassembler pour son équipe et qui est sa difficulté du moment. À la fois, certains veulent entrer, d'autres hésitent. Et c'est l'équilibre entre la branche, je dirais, alt-right, c'est-à-dire la droite extrême, populiste, anti-commerce, anti-femme, anti-homosexuel, anti-tout
ce qu'on veut. Ça, c'est le premier nom qu'on a entendu rentrer à la Maison-Blanche, notamment le directeur de la stratégie de la Maison-Blanche, Bannon, qui est un homme de l'ultra-droite.
Right, right, oui. Oui. Et puis les autres qui, au contraire, veulent l'encadrer pour assurer une continuité de la politique et maintenir la présence américaine dans le Pacifique dans des conditions qui soient à la fois avantageuses pour le business et qui soient de nature à sécuriser les alliés de l'Amérique là-bas, principalement le Japon et la Corée du Sud, et Taïwan, bien entendu. Alors, cette incertitude sur le team crée une incertitude sur la politique. Si on s'en tient au slogan, ça fait peur, c'est clair, quand il dit ce que vous avez rappelé, que le climat, c'est un canular inventé par les Chinois pour obliger les Américains à faire des économies d'énergie et
être moins compétitifs.
Ouais. Quand il dit la cause principale des difficultés de l'Amérique aujourd'hui, ce sont les emplois volés par les Chinois et qu'il faut recorriger ça. Ce sont des mots qui font peur parce que derrière, il y a des choix stratégiques pour le 21e siècle. Est-ce qu'on va rester dans le libre-échange? Est-ce qu'on va construire un ordre mondial de développement durable, et notamment sur le climat? Ce sont les grandes questions et lui n'apparaît pas aujourd'hui comme un acteur potentiellement responsable, je dirais. Il apparaît plutôt comme quelqu'un qui va créer de l'incertitude, qui va provoquer des ruptures, des tensions, notamment avec la Chine, et toutes les tensions que l'Amérique créera avec la Chine se répercuteront immédiatement sur l'Europe. C'est clair que si, par exemple, ils ferment les frontières de l'Amérique aux produits chinois, ils viendront ici et nous aurons peut-être.
Ils vont déferler sur l'Europe, quoi, quelque part.
Ils nous auront peut-être
beaucoup plus agressifs.
À y répondre. Et nous allons entrer peut-être dans une spirale très dangereuse. Donc il faut contenir cette tendance. Et c'est là qu'on a besoin d'alliés qui se pressent à Washington pour peser d'un poids. Oui. On a vu Abe, le premier ministre japonais, c'est le premier aujourd'hui à New York pour parler à Trump là-dessus. On n'a pas vu d'Européens.
Pas encore, oui, c'est vrai.
Et on ne voit pas qui en Europe pourrait peser.
Angela Merkel, sans doute.
Alors, Angela Merkel, elle parle à Obama, ce qui est très sympathique.
Oui, il est à Berlin aujourd'hui, pour une tournée d'adieu.
Oui. Oui, ça fait un peu ligue dissoute des intérêts libéraux. Est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit, Monsieur Obama, il est sur la sortie. Alors, écrire un papier commun, comme ils le font dans un périodique allemand pour exalter le libre-échange et le TTIP, c'est ce qu'on fait ensemble, Obama et Merkel, cette semaine. Est-ce que c'est vraiment une réponse au problème Trump, je crois que non, c'est un reste du passé.
Est-ce que, Pierre Defraigne, sans tirer des pans sur la comète, parce que vous l'avez dit, ce que va faire Donald Trump est en partie liée à son entourage, au cabinet qu'il va constituer. Mais est-ce qu'on vit entre ces deux géants chinois et américains quand même une rupture dans les relations? On voit que par rapport à l'autre grand régime autoritaire, la Russie, Donald Trump veut aussi une rupture. Est-ce qu'on doit quand même s'attendre là à une nouvelle donne géopolitique mondiale?
Bon. Entre Russie et Chine, il n'y a pas de comparaison. La Russie, c'est l'économie italienne. C'est une économie du tiers-monde.
Ouais. C'est un interventionnisme nucléaire qui est beaucoup plus important, évidemment.
Bien sûr. Mais elle peut nous valoir des ennuis ponctuels à court terme. Elle n'est pas une menace pour la sécurité du monde. En revanche, la confrontation Chine-États-Unis serait dramatique. Il faut l'éviter à tout prix. Et c'est le rôle de l'Europe. Parce que l'Amérique a toujours été partagée sur la Chine. Les uns veulent engager la Chine dans le système, et jusqu'ici, ils ont dominé, et les autres veulent empêcher la Chine d'arriver à un point de développement où elle deviendrait l'équivalent en capacité stratégique des États-Unis. Et c'est maintenant, selon eux, qu'il faut agir. Alors je crois que là-dessus, sur cette option fondamentale, Trump n'est pas encore déterminé, parce que sitôt a-t-il exprimé l'idée qu'il fallait lever des droits sur les
droits de douane
chinois, il a reçu la réponse de ses milieux d'affaires, d'abord, qui sont très inquiets parce qu'ils s'approvisionnent en Chine, appellent sans ses composants chinois et sans le montage en Chine, surtout, plus le montage que les composants, est en difficulté. Mais il y a aussi la dimension financière qui est importante. La Chine est la première créancière des États-Unis. Si Donald Trump veut faire de la politique expansionniste avec des coupes de taxes et de dépenses dans l'infrastructure et dans la défense, il devra financer un déficit. Il aura besoin de l'argent chinois. Et la Chine a une capacité, par exemple, de peser sur ce qui adviendrait des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est-à-dire.
Oui, parce qu'il possède une bonne partie de la dette américaine.
Oui, absolument. Oui. Et assez, en tous les cas, pour embêter les États-Unis. Maintenant, c'est un jeu perdant-perdant.
Oui.
Et donc, les Chinois ne sont pas fous. Ils veulent l'éviter à tout prix. Ils laissent entendre qu'ils pourraient mettre des droits sur les voitures américaines, sur une série de produits américains. Ils ont carrément dit, nous sommes prêts à acheter Airbus au lieu de Boeing, si c'est nécessaire. Mais ce sont, à ce stade-ci, j'espère, des avertissements pour calmer le jeu à Washington.
C'est vrai que ça sent un petit peu la grande guerre commerciale, et la grande guerre commerciale, ça fait toujours peur, puisqu'on a derrière des potentiels conflits, en tout cas tensions géostratégiques. Vous n'y croyez pas tellement, la Chine et les États-Unis sont trop liés déjà commercialement pour en arriver à un conflit plus ouvert?
Là, je ne tomberai jamais dans l'erreur qu'on a qualifiée juste avant la guerre 14-18 de grande illusion. C'est le titre aussi d'un film connu. Mais ce bouquin expliquait que la guerre était impossible en Europe, tellement l'intégration économique, notamment avec l'Allemagne, était forte. En réalité, le commerce n'empêche jamais la guerre, et c'est bien dommage. Il faut se garder de penser qu'on a là un remède miracle. La vérité, c'est ce que chacun des grandes économies va faire. États-Unis, Chine, Europe, comment allons-nous gérer le retour à une demande interne pour susciter de la croissance et de l'emploi? Les agendas sont des agendas maintenant beaucoup plus intérieurs. Et dans le cas de l'Amérique de Trump, je crois que comme Trump veut éviter à tout prix d'entrer dans un système de sécurité sociale à l'européenne, s'il veut contenir les inégalités et s'il veut donner satisfaction à ses électeurs, il doit en effet jouer la carte de l'emploi. Il n'a que ça comme outil. Mais s'il exporte son chômage, il crée une spirale, je dirais, vicieuse. Donc, il faut plutôt qu'il joue les programmes intérieurs, ce qu'il fait en partie avec ce grand budget d'infrastructure.
Oui. Est-ce que, alors ça, c'est une question centrale de ce qui est en train de se passer. On l'a vu avec notamment Reagan dans les années 80, que la politique intérieure américaine et ces mutations du libéralisme américain ont eu des conséquences singulièrement en Europe, mais partout dans le monde. Est-ce qu'on vit peut-être ici une nouvelle période pour le modèle anglo-saxon, le modèle américain du libéralisme qui est en train de revenir à peut-être plus d'interventionnisme? Vous avez cité les grands programmes de Donald Trump. C'était une de ses premières annonces quand il était élu, c'est de dire qu'il allait quasi revenir à des choses qu'on avait vues dans le New Deal de Roosevelt. Est-ce qu'on vit peut-être ça, une contraction du libéralisme qui revient à des fondamentaux quasi keynésiens?
Oui, je pense qu'on est entré dans la post-mondialisation. Oui. Dans la mesure où, dorénavant, le commerce croît plus lentement que l'économie mondiale qui elle-même a commencé à se réduire. Donc, c'est un changement qui a des conséquences géopolitiques aussi très importantes sur les rapports de force. Je vois que Monsieur Trump est prêt à abandonner son accord transpacifique, qui signifie un retrait de l'Amérique, de l'Asie, le contraire de la politique Obama, et de remplacer le TPP par un renforcement de la force navale américaine dans le Pacifique. C'est tout à fait inquiétant de voir ce type de changement, commerce contre renforcement de la présence militaire. Donc c'est vrai qu'il y a des grands changements qui sont en cours, il faut les maîtriser, il faut une coopération plus que jamais entre les trois grands acteurs, c'est la clé.
Il nous reste 20 secondes, le troisième acteur, notamment l'Europe, vous croyez, sur le champ de ruines actuel, qu'on pourra reprendre les choses en main et s'imposer entre la Chine et les États-Unis, faire entendre notre voix?
Je veux le croire.
Ouais, c'est une volonté, mais est-ce que vous y voyez des éléments d'un début de redressement européen sur cette question-là?
Je crains que pour le moment, la tendance en Europe soit plutôt de rechercher à tout prix l'alliance américaine et d'en ignorer complètement les conséquences néfastes, notamment pour la réindustrialisation technologique de l'Europe.
L'incertitude sur la cohésion de l'équipe de Trump amène une incertitude plus globale sur sa politique. Il faudra s'attendre à des difficultés sérieuses, ne serait-ce que par le côté imprévisible de Donald Trump. Déclaration de Pierre Defrène ce matin sur La Première.